Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Je sais que tu l'attendais depuis longtemps, et bien il est là. Le Covid a bouleversé nos vies depuis quelques temps, et beaucoup d'entreprises se sont mises au télétravail, de gré, mais surtout de force. Dans Radio DevOps, c'est une émission où on discute d'un sujet en particulier, et comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va discuter de télétravail. Et si tu n'es pas encore abonné, bah, c'est le moment de le faire. Et je te précise que tous les animateurs qui sont avec moi ce soir viennent de la communauté des compagnons du DevOps. C'est un forum où on discute beaucoup, et nous sommes déjà plus de 700. Et si tu n'as pas encore rejoint le forum des compagnons, tu peux venir nous rejoindre sur compagnons-devops.fr. Et de toute façon, le lien est en description. Alors, que l'on travaille à la maison ou que l'on aille en coworking, le télétravail s'invite de plus en plus dans nos vies. Et au vu de l'évolution de la Covid, on risque d'en avoir pour un long moment du télétravail. Donc, autant le préparer. Donc, cette émission sera peut-être un poil moins structurée que d'habitude, parce qu'on va surtout faire des retours d'expérience. Mais bon, on verra ce que ça donne. Pour en parler avec moi, je suis avec Benoît.
Bonjour.
Damir.
Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
Et enfin, Erwan.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les trois. Alors, on va commencer, je pense, par notre passage au remote ou au télétravail. Comment ça s'est passé et depuis quand, en fait, on le fait? Mais avant de rentrer vraiment là-dedans, peut-être qu'en fait, il est bon de rappeler à nos auditrices et auditeurs quel est notre statut, en fait. Est-ce que vous êtes salarié, freelance, entrepreneur et ce genre de choses? Donc, Damir, je te laisse la parole. C'est quoi ton statut par rapport à l'entreprise, en fait?
Alors moi, je suis salarié, tout ce qui est plus classique en CDI. Par contre, chose à noter, qui est importante pour le remote, du coup, je suis dans une ESN. Donc, je fais en majorité de la prestation chez le client.
Benoît, toi, qu'est-ce que tu fais?
Moi, je suis entrepreneur tout seul depuis 3 mois. Mais avant ça, j'étais salarié, comme Damir, et j'ai fait à la fois des boîtes qui proposaient un produit et des ESN.
Et Erwan?
Moi, je suis aussi salarié chez un éditeur logiciel.
Et enfin, Christophe, c'est moi. Moi, j'ai été salarié longtemps où je ne faisais pas de remote du tout, je ne faisais pas de télétravail. Et depuis 2015, je suis freelance et maintenant, je suis entrepreneur dans le numérique. Et je fais exclusivement du remote, puisque chez l'Hydra, on prône le remote first. En gros, les gens qui nous rejoignent dans le collectif de freelance, ils font ce qu'ils veulent, ils travaillent où ils veulent. Et on encourage nos clients à ne pas nous faire travailler chez eux. On leur explique pourquoi. Du coup, on va pouvoir en parler depuis combien de temps vous faites du remote. Et je vois en effet du côté de chez Damir que ça s'excite. Donc, je vais te laisser la parole, Damir. Depuis combien de temps tu fais du remote?
Alors, je fais du remote en colocation avec mon chat, bien sûr, depuis maintenant, ça fait 3 ans que j'en fais, 3-4 ans que j'en fais occasionnellement, et là, du coup, je fais une grosse partie de full remote et j'en fais un peu plus, entre guillemets, mais ça fait, ouais, bien 3-4 ans que je fais du remote de temps en temps.
Donc, ça n'a pas été vraiment une surprise, du coup, pour ton entreprise de passer au remote, en fait?
Pour le coup, non. Moi, pour mon entreprise, par défaut, autorise le remote. Après, c'est comme tout, vu que je suis dans une ESN, ça dépend du client. Notre client s'est assez rapidement, entre guillemets, adapté et nous a autorisé à passer en full remote. Pour le coup, là-dessus, j'ai pas eu trop de soucis. Là, j'ai un nouveau client et lui, il a aucun souci du tout avec le remote. Tant qu'il est prévenu, bien sûr, pour pas nous chercher au bureau, ça va, quoi.
Et toi, Erwan, depuis combien de temps, en fait, finalement, tu as commencé à faire du remote?
Pareil, là, les dernières expériences que j'ai eues, donc si je remonte jusqu'à, je vais dire, 8-10 ans, à chaque fois, c'était des boîtes où on pouvait faire du remote de façon, on va dire, occasionnelle. Donc, quand j'étais chez Antelink ou Deezer, on pouvait faire du remote de façon occasionnelle. Par contre, depuis que je suis chez Tocantoco, là, il y a une vraie grosse culture remote. Et donc, j'y suis depuis 2016. Et clairement, tu peux faire le remote first est clairement prôné, quoi. Même si il y a des locaux, etc. Mais globalement, c'est bien intégré dans la culture.
Bah Benoît, je t'en prie, raconte-nous un petit peu depuis que tu commences.
J'ai eu un peu tous les cas. J'ai eu le cas où le remote était pas officiellement pas autorisé. Du coup, on en faisait très très peu. J'ai eu le cas où le remote occasionnel était autorisé au besoin, enfin quand il y a besoin de réceptionner un colis ou autre raison personnelle, ils étaient assez arrangeants. Et ma dernière expérience, là pour le coup, il y avait remote autorisé et régulier. Donc au début c'était un jour par semaine. C'était pas obligatoire, on pouvait venir quand même dans les locaux, mais c'était complètement accepté. Et le vendredi on trouvait pas grand monde dans les locaux. Et en fait, à l'approche du Covid, ils ont été super réactifs. Même avant le confinement, ils commençaient à lâcher les rênes sur le remote et à autoriser les gens à faire autant de remote qu'ils le souhaitaient. Et en fait, après, dès le début du confinement, voire même un peu avant, on était quasiment tous en full remote. Encore une fois, c'était pas obligatoire, mais ils avaient complètement enlevé toutes les règles qui pouvaient rester sur le sujet pour éviter tout problème. Et ça a posé aucun problème parce que c'était déjà un peu dans l'ADN de la boîte.
Du coup, depuis le déconfinement, vous continuez à télétravailler de manière régulière, j'imagine ?
Ouais, c'est ça. C'est que voilà, comme je suis plus dans l'entreprise, mais effectivement, après le déconfinement, jusqu'à mon départ, le full remote était complètement autorisé pour tout le monde, à ma connaissance en tout cas. Mais encore une fois, pas obligatoire. On pouvait venir au bureau pour des besoins urgents ou pour une réunion ou autre. Mais effectivement, ça a duré et je crois que ça dure toujours. Enfin, j'ai toujours des retours d'anciens collègues. C'est full remote autorisé. Et puis, si vous voulez faire une exception, je crois que même à une époque, il fallait s'enregistrer sur un formulaire pour dire je vais venir au bureau pour être sûr que ça dépasse pas une certaine capacité. Donc voilà, c'était vraiment très très encouragé de rester chez soi.
Moi, de mon côté, pareil, depuis le déconfinement, je suis revenu au bureau, je pense au meilleur des cas une fois par semaine, mais sinon, je continue à faire du remote. Et un peu comme ce que Benoît a décrit, l'entreprise encourage à rester en remote, mais si pour tout un tas de raisons matérielles, ou isolement, ou j'en sais rien, ou ce qu'on veut, on a besoin d'aller au bureau, on peut, mais il y a aussi un document à remplir pour être sûr qu'il n'y ait pas plus de X personnes qui soient présentes, quoi.
Et pour le coup, j'enchaîne. Moi, je retourne au bureau de temps en temps. Globalement, jusqu'en août, je suis resté en full remote. Donc, je suis resté totalement en remote là-dessus. Après, j'ai changé de mission. Donc, il a fallu que j'aille chercher mon PC, etc. Donc, ces choses-là qui nécessitent d'être là de manière... qui sont plus simples, on va dire, quand on est là physiquement. Et là, à partir de début septembre, en fait, je suis en full remote, mais avec de l'optionnel, on peut y aller. Et j'essaie d'y aller 2 jours par semaine pour pas, pour pas rester enfermé, parce que j'ai pas envie de me payer un home office ou un coworking. Un coworking pour le coup. Et tout simplement pour aussi un peu garder le contact, parce que c'est vrai que des fois j'aime bien un peu les discussions informelles autour d'un café qui sont, à mon sens, plus sympas comme ça. Pour le coup, j'ai juste donné cours, donc là malheureusement c'était forcé en présentiel, malheureusement. Pour mes étudiants, j'étais obligé d'être là en présentiel pour le coup, et il n'y a pas eu le choix entre guillemets pour une semaine.
Alors moi je vais préciser quelque chose quand même, parce que même si on est un collectif de consultants indépendants, on a parfois des stagiaires et on a surtout des alternants. Les stagiaires, normalement, officiellement, légalement, ils doivent être sur place sous la tutelle physique du tuteur. Pendant le confinement, évidemment, ce n'était pas possible. Et là, on accueille un nouveau stagiaire et on est en train de justement se demander, il est à Rennes là physiquement, et on est en train de se demander si on va pas refaire du remote, parce que à Rennes, puis de manière globale, en ce moment, ça circule beaucoup plus qu'avant. Donc on va essayer encore de déroger à ça. Et avec les alternants, nous on fait un jour par semaine de remote avec ma nouvelle alternante qui vient d'arriver, le vendredi, et avec mon autre alternant qui est avec nous depuis déjà 2 ans, lui par contre il est en full remote et il peut venir à l'espace de coworking s'il veut. Ce qui fait qu'en fait, habituellement, 2 jours par semaine, quand j'ai l'alternante, je vais au coworking et sinon le reste du temps c'est du remote pour nous. Est-ce que ça a bouleversé quelque chose dans votre quotidien de passer au remote ?
Dans mon quotidien, bah oui, forcément. Enfin, en tout cas, le remote imposé, oui. Mais par contre, d'un point de vue opérationnel, pour le taf, en tout cas pour moi, ça a quasiment rien changé vu que, comme je disais un peu plus tôt, il y a une culture assez forte du remote avec tout un tas de process ou de bonnes pratiques qui font que ça marche si t'es présent ou pas présent et que t'es toujours au courant des choses, etc. Que du coup, opérationnellement, en tout cas, moi, ça a absolument rien changé, quoi.
Moi, c'est pareil, j'ai pas été bloqué sur mon travail, j'ai l'habitude de le faire ponctuellement. Après, ça a été un peu peut-être dur dans la longueur. Des fois, je me sentais un peu pas oppressé, mais c'est vrai que j'avais envie de rediscuter d'un point ou d'aller juste boire un café avec un collègue sans prendre la tête. Pour le coup, on a des choses en place. On a notamment sur notre channel Slack, on a des moyens de lancer des petits calls informels entre 2-3 personnes au hasard qui sont dispo pour du coup avoir ce semblant d'échange. Mais c'est vrai que des fois, juste entre guillemets, prendre l'air, parce qu'il y avait aussi le confinement, on était vraiment enfermé pour le coup. C'est pas comme une condition de télétravail normale où tu peux sortir, aller boire un verre avec un collègue à la fin de la journée ou un truc comme ça. Là, pour le coup, c'était le combo des deux, donc rester enfermé pour travailler. Plus le fait d'être totalement fermé était un peu dur à supporter, bon, pas dur non plus à supporter totalement, et c'était pas insupportable, mais c'était parfois un peu lourd, en tout cas pour moi.
Ouais, je comprends tout à fait, c'est aussi ça, c'est un peu ce combo qui a été plus difficile à vivre. Le télétravail en tant que tel, j'avais tendance à trouver ça très très avantageux, que ce soit d'un point de vue personnel, on évite du temps de transport, enfin ça... beaucoup beaucoup d'avantages d'un point de vue d'un point de vue pro, c'était plutôt pratique aussi au final, puisque il y avait aucune contrainte liée à mon métier. Après effectivement il y avait un peu ce manque de contact quand même avec les collègues qui fait quand même la vie d'une boîte et qui aussi contribue aussi à ce qu'on se sente bien dans une entreprise, je pense. Mais effectivement, j'ai plus l'impression que c'était le contexte confinement, en plus du télétravail, qui a amplifié ça. Il y avait des gens dans mon entourage qui continuaient d'aller au travail malgré le confinement, parce que ils avaient pas le choix. Bizarrement, j'ai l'impression qu'ils vivaient mieux leur confinement de ce point de vue-là, grâce au fait qu'ils allaient quand même au travail la journée. Parce qu'ils avaient quand même l'impression de casser, ils n'étaient pas toujours dans leur appartement, toujours enfermés, etc. Mais du coup, je pense que c'était lié au contexte particulier et pas vraiment au télétravail, ce petit inconvénient.
Et puis il faut dire, le contexte était aussi assez anxiogène. Donc moi, je sais que je l'ai bizarrement vécu, ce contexte-là. Je ne me rendais pas compte, mais quand je suis retourné à mon espace de coworking, je me suis... reaperçu à quel point c'était agréable finalement de bouger de chez soi, et même si en plus chez moi j'ai un vrai bureau qui est assez grand, en plus il est pas tout petit, il fait 14 mètres carrés, donc c'est un vrai bon gros bureau, mais sortir de chez soi c'est quand même pas mal. Et du coup, quand vous accueillez des nouveaux membres en fait dans vos entreprises, est-ce que quand vous passez justement au télétravail, c'est abordé dans ce qu'on appelle l'onboarding ou l'accueil en fait des nouveaux membres?
Ah bah, moi je peux en parler parce que ça a été un vrai sujet dans ma boîte. Il y a quand même plusieurs, en tout cas à l'équipe tech, il y a eu plusieurs nouveaux qui ont vraiment pas connu la boîte la vie de la boîte avant le confinement. Et du coup, l'onboarding de ces personnes, c'est un truc un peu crucial parce que comme ça a été dit avant, ce qui fait un peu le sel et d'une de la culture d'entreprise et qui fait que les gens sont soudés, machin et tout. C'est un peu les discussions informelles, c'est un peu la vie alternative de la boîte, etc. Et en fait, tout ça, tu l'as plus en mode remote, quoi, ou en tout cas de façon beaucoup plus limitée. Et du coup, ça peut être un vrai sujet quand tu onboardes des gens à qui tu dis que la boîte elle est super, etc., et qu'au final, bah, leur onboarding c'est face à Trello à dépiler des cartes pour être sûr qu'ils font bien toutes les tâches les tâches du début quand ils arrivent dans la boîte. Et en fait, il peut y avoir un côté, je pense, un peu déprimant. Donc nous on a essayé de faire un peu attention à ça. Je ne sais pas comment l'ont vécu tous les nouveaux de l'équipe technique, mais en tout cas, la personne avec qui je travaille en direct, qui est nouvelle, en tout cas, on a fait vachement attention à ça, avec des espèces de points de synchro réguliers, avec la webcam allumée pour que ça fasse... pour qu'on voit un peu plus les gens, etc. Et comme je disais, on peut quand même aussi aller au bureau. Donc, une fois qu'il y a eu le déconfinement, on restait toujours en full remote, mais on essayait de se synchroniser en se voyant une fois par semaine au bureau. Mais moi, je pense que c'est un vrai enjeu, l'onboarding des gens quand on est dans des boîtes qui sont en full remote comme ça peut être imposé avec le confinement, parce que à mon avis tu peux perdre des gens qui déchantent sur la vie d'entreprise et la culture d'entreprise qui peut en découler. Et il y a beaucoup de boîtes qui sont en full remote qui ont justement communiqué un petit peu sur l'onboarding. Donc je pense à des boîtes comme Elastic, il me semble, ceux qui font Notion, là, c'est Basecamp, je ne sais jamais, mais il me semble que Basecamp aussi a communiqué là-dessus sur l'enjeu de onboarder des gens quand on est une boîte full remote. Et ça, je pense que je pense qu'on va aborder le sujet un petit peu plus en détail après, mais c'est pas un truc magique, il faut vraiment qu'il y ait une culture dans la boîte qui va dans ce sens-là, quoi. Au-delà des outils, des process, etc., il faut vraiment que la boîte soit dans le mindset d'être en remote.
Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, moi, j'ai pas vécu un onboarding complet, mais disons que pendant ma période, juste avant de partir de ma boîte, on a recruté quelqu'un qui devait me remplacer. Et du coup, on a un petit peu discuté. Donc, il n'a pas été traumatisé par le fait de se faire onboarder à distance. Mais je me souviens qu'il m'a quand même parlé d'une gêne par rapport à... Il avait le sentiment d'avoir un manque de retour sur ses débuts, sur son travail à ses débuts. Alors qu'on lui faisait du retour qualitativement sur ce qui se passait, mais j'ai eu l'impression que voilà, ce manque de contact humain, du coup, nous on avait l'impression de faire des retours, mais du coup on devait en faire certainement beaucoup moins que si ça s'était passé en direct. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et du coup, je suis d'accord avec Arwen, il y a en un sens, si c'est pas bien fait, ce qui est pas évident non plus, parce que effectivement, quand une boîte a jamais fait de remote au-delà d'un jour par semaine, c'est toute une culture et tout un tas d'automatismes à mettre en place. Mais du coup, le risque, effectivement, c'est que la personne se sente pas... soit pas accueillie dans le pire des cas, ou même plus simplement pas intégrée dans la culture de l'entreprise, juste par le manque de contact, parce que à un moment donné, la visio, c'est sympa, mais il y a tout un tas de choses qui peuvent pas être remplacées, en tout cas pas avec les moyens actuels. Peut-être qu'avec la VR, un jour, ça arrivera, j'en sais rien, mais... voilà, je suis d'accord avec Arwen sur ce risque-là, et c'est un truc à prévoir vraiment à l'avance avant de. Bon, dans le cas présent, il y a plein d'entreprises qui ont été prises de court, et c'est normal, quoi.
Après, pour le coup, moi, je vais apporter une vision, une double vision, entre guillemets, parce que j'ai connu les deux. Du coup, vu que j'ai changé de client, comme j'ai dit précédemment, j'ai connu un onboarding côté client. J'ai fait que le premier jour, en fait, là-bas, uniquement pour aller chercher mon poste de travail, du coup, et mais tout ce qui était accès badge, etc., parce que c'était plus simple, pour le coup, et on n'était pas confiné, entre guillemets, aussi sévèrement qu'au début. Pour le coup, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce problème logistique aussi. J'étais dans mon client précédent, qui était une très grosse entreprise avec plus de 2000 personnes, les onboardings étaient compliqués aussi niveau matériel parce qu'il faut expédier le PC, parce qu'il faut l'installer, donc chez qui on le fait livrer d'abord pour l'installer, potentiellement s'il y a besoin d'un système spécifique, comment on le fait paramétrer, des choses comme ça. Donc au final, il y a aussi cette problème logistique qui était assez importante et qu'on a tendance à des fois à oublier, vu qu'aujourd'hui on est dans, tout est dans le cloud si j'ose dire. Il faut pas oublier que derrière il faut quand même le PC de la personne et tout ça. Donc j'ai connu l'onboarding du coup là au mois de septembre en full remote après pendant 2 semaines et après on a commencé à se revoir de temps en temps. Pour le coup, effectivement, le rapport humain est des fois un peu dur à trouver parce que tout ce qui est, on va dire, logiciel de communication, souvent ça manque un peu de chaleur humaine. En fait, ça reste que des textes et globalement des pixels sur un écran. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à ressentir, entre guillemets, les sentiments, etc., au travers. Donc c'est un peu compliqué, notamment quand on vient dans une entreprise, de savoir, quand on exprime son point de vue sur un sujet, comment il est ressenti, des choses comme ça. Et une autre chose est assez intéressante pour le coup, c'est que dans mon entreprise, du coup là, chez mon client, c'est passé comme ça. Donc ça s'est bien passé au final parce que au final ce qu'on fait c'est faisable un peu de partout. Moi je suis habitué à travailler de manière asynchrone à distance, il n'y a aucun souci là-dessus. Je fais quasiment que du Git, donc j'ai pas besoin spécialement de partager là-dessus. Pour le coup, ça a été, mais c'est vrai que parfois ça manquait peut-être un peu de contact et j'ai été content quand même de retourner pour discuter avec mon responsable, voir un peu ce qu'il attendait, discuter de manière informelle. C'était plus facile, entre guillemets, des choses qui m'auraient mis plus de temps en remote. Et en interne à mon entreprise, donc ma société de service, on a une culture beaucoup de partage. Je prends un exemple très simple et c'est très parlant des petites difficultés qu'on a eues. C'est que tous les mois, on a une journée qui est forcément déstaffée. C'est obligatoire. C'est une journée où tu ne travailles pas pour ton client. Et tu te retrouves, on se retrouve entre nous, on échange sur nos expériences, sur ce qu'on a envie. Hein. Si demain vous avez envie de dire, j'ai découvert un super outil, il faut que je vous présente, tu peux le faire. Et en fait, ça peut paraître très con, mais avec le Covid, on le faisait en remote. Et il y a eu des moments, moi j'ai présenté des sujets, et c'est extrêmement compliqué quand on présente des choses, que ça soit du coup en réunion. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte, parce que je présentais devant une cinquantaine de personnes, que quand on présente des choses, c'est quand on n'a pas les feedbacks visuels de voir si quand on fait une blague, si elle tombe à l'eau ou pas, ou des choses comme ça, quand on fait des petits traits d'humour, c'est très bizarre. Et il faut avoir l'habitude de le faire. J'ai déjà donné des présentations en stream ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Parce que moi, je suis très habitué à avoir les feedbacks visuels des gens, à me déplacer, à ce qui est de la gestuelle, des choses comme ça. Et là, pour le coup, ça m'a un peu complexifié la tâche. En tout cas, pour parler aux gens dans ce sens-là, surtout aux nouveaux, parce que du coup, on a intégré des nouveaux entre-temps, et je parle longtemps, du coup, parce que je donne les deux points de vue. Et autrement, il y a un truc qui a bien marché, c'est que dès le début, je crois que c'était au deuxième ou troisième jour, on a mis en place, du coup, cette idée d'avoir un chat, quand vous avez envie de parler à quelqu'un, vous lancez juste votre cam, vous faites rien d'autre, vous mettez votre cam en plein écran pour voir que ça et pas le taf, vous prenez un café, vous discutez de manière informelle. Au début, c'était un peu bizarre, mais au bout de 2-3 fois, c'est vraiment passé, c'est vrai, ça a vraiment apporté quelque chose, même si c'est toujours un peu différent. Ça a été quand même pas libérateur, mais ça a aidé en tout cas à garder un peu de contact humain avec les collègues, et aussi au nouveau, tout simplement, de se présenter. Ils passaient, ils faisaient « Ah, mais toi, je t'ai pas vu, tu travailles où, tu fais quoi ? Ah oui, non, c'est cool. » Donc c'était vraiment, je trouve, une bonne chose. Je sais pas ce que tu voulais rajouter quelque chose, Christophe, là-dessus, ou un avis.
Oui. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à un onboarding typiquement en remote. Pour l'instant, on le fait en physique, c'est-à-dire que j'accueille les nouveaux physiquement pendant une demi-journée si c'est des stagiaires, ou une journée si c'est des alternants ou des salariés qui vont rester avec nous longtemps. Avec une partie, en effet, de travail personnel où je leur montre des vidéos et ce genre de choses. Donc, on a toute une première journée, en fait, où on discute. Je leur présente notre structure un peu particulière, c'est-à-dire notre marque, notre collectif, puis notre société. Donc, on est en coopérative d'entrepreneurs, c'est un peu particulier, donc il faut leur expliquer tout ça. Et puis, on revient souvent la semaine d'après quand ils ont regardé les vidéos qui sont un peu documentées. On a un livret d'accueil aussi qu'ils doivent lire, pour discuter, et donc souvent on a une heure ou deux de discussion sur divers sujets, notamment sur logiciel libre, le DevOps, ce genre de choses. Et donc ça, c'est l'onboarding, mais du coup, nous, il est physique. Et il n'est pas encore dématérialisé. Je ne sais pas comment on pourrait faire si on le dématérialisait vraiment, mais un jour, il va falloir se poser la question. Et du coup, puisqu'on parle d'organisation ou autre, je vous propose qu'on parle de trouver ces marques et de comment est-ce qu'on trouve ces marques et comment est-ce qu'on travaille finalement au quotidien en étant en télétravail. Puisqu'on a plein de sujets qu'on peut aborder. Est-ce qu'on travaille en asynchrone? Quels sont les outils qu'on a ou ce genre de choses? Quelles sont les organisations rituelles? Bref, plein de choses pour... soit on met en place pour trouver nos marques, nous en tant qu'entrepreneurs ou indépendants, soit que notre société met en place. À qui veut commencer à nous donner ces petites pépites ou autres?
Je me permets de prendre la parole, pardon. Le truc que tu as évoqué, la synchrone, pour moi, c'est la pierre angulaire du remote, quoi. On ne peut pas travailler en remote de façon efficace si on n'a pas une culture et un taf aussi. Il faut avoir le taf qui le permet de le faire de façon asynchrone. Parce que si à chaque fois que quelqu'un a une question, on s'interrompt et on doit y répondre. Enfin, il faut limiter les interruptions pour pouvoir être efficace. Le problème du remote, c'est que justement on peut très vite se retrouver avec un Slack avec 12 000 notifications auxquelles il faudrait répondre, mais en fait si la culture de l'asynchrone est bien intégrée et que cet aspect, on le retrouve dans tous les différents aspects du travail. Donc, je pense par exemple aux réunions. Par exemple, les réunions, peut-être que c'est pas nécessaire que tout le monde soit présent au moment de la réunion, mais par contre, on peut peut-être consulter soit un résumé, soit même la réunion qui a été enregistrée, et on la consulte après. C'est une action asynchrone et qui permet probablement de gagner en disponibilité et du coup en efficacité pour éviter de couper du travail. Moi, je pense que vraiment que c'est on peut pas avoir une culture remote sans être hyper carré sur ce côté-là, quoi. Pour moi, l'asynchrone, c'est vraiment si on peut pas travailler de façon asynchrone, je vois pas comment on peut être efficace en remote, quoi.
Pour le coup, ce que tu dis, Erwan, je trouve que c'est un peu vrai aussi en présentiel, hein, parce que quand on est, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là, mais il y a des études qui montrent que en gros, quand t'es concentré sur une tâche, si on vient de parler d'autre chose, tiens, on te dit non, mais j'en ai pour 2 minutes. La personne, globalement, elle va s'imaginer que elle parle 2 minutes. Derrière, il nous faut 1 minute pour nous remettre dans la tâche au même niveau de concentration. Et en fait, des études qui montrent que, en fait, la durée minimum, c'est 15 minutes pour être réellement à 100% exactement au même niveau de concentration qu'avant. Et du coup, en fait, les interruptions et le fait de pas se synchroniser pour les échanges et du coup de casser la concentration de son collègue ou inversement, c'est un mal qui était là déjà en présentiel. Après, c'est juste que du coup, en remote, j'ai envie de dire, du coup, c'est pas pire dans le sens où du coup, les personnes qui sont habituées à faire ce genre de choses, enfin, puis moi aussi, on l'a tous fait à un moment donné, ça fait partie des habitudes. On se retrouve frustré de pas pouvoir le faire en direct, donc du coup, effectivement, on va flouder Slack, on va flouder X ou Y logiciel de messagerie. Mais le problème, il est juste mis en avant du coup, mais c'est un truc qui existait déjà. Et limite, j'ai envie de dire, de ce côté-là, le remote peut être, enfin, en fonction de comment c'est pris, mais en fonction de comment c'est anticipé, ça peut être un point de départ pour aller mieux sur ce sujet. C'est mon ressenti. Après, effectivement, il y a plein d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas, et globalement, les interruptions vont juste prendre une autre forme. Mais enfin, voilà.
Moi, j'ai beaucoup travaillé en open space chez plein de clients. avant d'être indépendant. Et du coup, j'en étais venu justement à tellement détester les interruptions que sur mon bureau, j'avais posé un panneau avec marqué « Prenez rendez-vous ». Parce que je supportais plus d'être dérangé toutes les 10, 20, 40 minutes. J'arrivais plus à avancer. Donc oui, c'est clairement pas une bonne chose. D'ailleurs, même en remote, hein, on peut être dérangé, le téléphone il peut sonner. Donc, je sais pas ce qui vous le faites, mais moi, mon téléphone, il est tout le temps silencieux. Je suis pas dérangeable, en fait, si je décide pas de l'être. Si je me connecte pas au chat ou quoi que ce soit, ou si je regarde pas mon téléphone, et puis en plus, je regarde pas mes mails pendant que je travaille, eh ben, les gens, ils doivent forcément laisser des messages, et c'est moi qui dois les rappeler.
Alors, parce que je me suis peut-être mal exprimé, mais effectivement, les interruptions, ça rentre là-dedans. Mais ce que je pense qu'il faut, il faut noter, c'est que le point qui me paraît fort dans l'asynchrone, c'est ne jamais être bloquant pour quelqu'un quand on fait une tâche. Et en fait, le bon exemple, c'est par exemple votre travail, c'est par exemple de créer la pull request qui va faire la feature. En fait, on l'a fait, et puis une fois qu'on l'a fait, on n'attend pas que quelqu'un la review tout de suite, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est que par exemple, quand on a fait une pull request qui nous semble éligible à une review, on a un chat avec de pull request. On dit voilà, j'ai fait ça, ça touche à tel sujet. Si quelqu'un peut regarder. Et en fait, je sais pas quand est-ce que ça va être traité. Et en vrai, je m'en fiche. Alors oui, si ça met 15 jours, je serai un peu vexé. Mais je veux dire, je sais que ça va être pris à un moment. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on relâche le lock, quoi. Je suis bloquant pour personne et personne me bloque pour que moi je puisse avancer sur d'autres sujets. Et en fait, le fait d'avoir des tâches comme ça, c'est ce qui fait que, en fait, on a besoin entre guillemets de personnes ou en tout cas de peu de gens pour pouvoir être opérationnel sur notre champ d'action et c'est ça qui est le plus important. Alors ça veut pas dire qu'il y a jamais d'interaction, mais du coup ça veut dire qu'on peut s'occuper tout seul entre guillemets et en fait je pense que si on n'est pas en mesure d'avoir ça dans notre poste ou dans notre entreprise, je ne vois pas comment on peut faire du remote efficace, parce qu'à chaque fois, tu vas faire un truc et puis tu vas attendre que Jean-Pierre réponde à ton Slack. Et puis, en fait, comme tu attends sa réponse et que sans sa réponse, tu ne peux pas avancer sur tes autres sujets, asynchrone. Et du coup, ça vient avec deux autres trucs, je pense, qui sont que les gens soient les gens qui font du remote efficacement soient un minimum autonomes sur leur champ d'action et que du coup il y ait une certaine transparence sur les actions que mènent les uns et les autres. Donc typiquement dans une squad, ça peut être représenté par le daily, alors le stand-up meeting, comme on appelle ça comme on veut, mais ce qui est le matin quand on dit hier j'ai taffé là-dessus, aujourd'hui je taffe là-dessus, je rencontre telle difficulté. Et en fait en sachant tout ça, si on est autonome et que les tâches nous permettent, en fait, on sait comment s'organiser pour avancer au mieux sur les différents sujets. J'ai l'impression d'avoir été un peu confus, mais j'espère que vous avez compris l'idée que je voulais souligner.
Non, je pense qu'on a bien compris. C'est vrai que le travail asynchrone là-dessus, ça a une importance vitale, entre guillemets, là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance aussi à parler beaucoup, au final, d'outils qui ont facilité le travail. Et pour moi, un outil comme GitLab, GitHub, ou un outil en tout cas de gestion de version un peu complet, ça aide là-dessus pour faire de l'asynchrone, justement, où tu vas faire, comme tu disais, ta merge request, tu vas voir, après, tu vas y retourner, je sais pas moi, une heure après, tu as fait une autre tâche, tu retournes dessus, tu vas voir que ton collègue a mis un commentaire, il a dit ce côté-là, ça peut être optimisé en telle fonction, tu vas refaire, et ça, tu peux le faire vraiment de manière asynchrone, et c'est vrai que c'est agréable, et c'est quelque chose qui est assez courant dans nos métiers, donc on a de la chance, si j'ose dire. Après, Moi, il y a un truc que je fais justement, parce qu'on parlait un peu des interruptions. Je sais pas vous, mais on a tout ce qui est outil de communication instantanée, ça tend à très vite de devenir un outil de, on va dire pas de spam, mais on va avoir des notifications en permanence, on va être souvent sollicité. Et pour le coup, moi, j'en suis arrivé à un point où, par moment, quand j'ai besoin de bosser sur un truc, alors ça m'arrive quand même pas rarement d'être entre guillemets sursollicité à ce point-là, entre guillemets, j'ai de la chance, mais je sais que il y a des périodes où je suis sursollicité, j'ai besoin de me concentrer. Je vais faire un mute pendant une heure, voire 2 heures de tout ça. Je me mets soit à mon bureau, bon, si je suis physiquement, je vais me mettre à mon bureau ou dans une salle de réunion plutôt, pour être un peu isolé et pouvoir travailler dans mon truc en me concentrant. Et je vais faire pareil chez moi, quoi. Je vais me couper mes mails et pour le coup, je vais couper mes notifs pendant 1 heure. J'avance sur ce que j'ai, après je dépilerai. Mais j'en suis arrivé quand il y a des gros moments, on va dire, de sollicitation à faire ça. Ça fait un petit bout de temps que ça m'est plus arrivé d'être à ce point-là, mais je pense qu'il faut pas hésiter à le faire à des moments quand on a besoin de se poser sur un point, de se dire, bah là, je suis pas dérangeable pendant 1 heure, si c'est urgent, faites autrement, quoi. Pour le coup, je pense que c'est plutôt, un bon réflexe à avoir.
Oui, je te donnerai la parole, Erwan, juste après. Ça va nous amener à parler un peu d'organisation. Moi, je suis un peu dérangé parce que, comme vous l'aurez compris, j'ai deux alternants. Je suis le tuteur de deux alternants, donc ça demande pas mal de travail, mine de rien. Donc, si au début, en fait, avec mon premier alternant, il était tout seul et je n'avais pas vraiment cadré les choses, et je me suis aperçu qu'en fait, j'étais dérangé tout le temps. Et ça a été pire en fait quand j'ai eu un alternant et un stagiaire en même temps. Et là, j'ai dû en effet réorganiser le travail de l'équipe. Et je leur avais proposé une organisation qui finalement a bien marché, puis on continue à la voir. C'est les matins, vous ne me dérangez pas, vous faites votre travail. De toute façon, tous les matins, en fait, à 9h30, on a un stand-up. Donc quoi qu'il arrive, ils peuvent me dire ouais, je suis bloqué là. Mais en gros, le matin, ils ne me dérangent pas. Ils ont plein de travail à faire. Donc, s'ils sont bloqués sur une tâche, ils notent toutes les questions et puis ils passent sur une autre tâche, en fait. Ils ont assez de travail pour s'occuper toute la matinée. Et l'après-midi, on peut prendre du temps pour justement, enfin, moi, en tout cas, leur répondre à leurs questions. Et ça marche plutôt pas mal, y compris avec les stagiaires. Donc, c'est plutôt bien. Surtout quand on a des personnes qui sont dépendantes de nous, parce que vous avez peut-être pas de personnes qui sont dépendantes de vous, mais moi en l'occurrence c'est le cas, parce que stagiaires et alternants, elles sont forcément dépendantes de nous et de notre savoir.
Quand on évoquait la transparence, ça va dans les deux sens avec une composante de confiance qui est forte parce que le remote fonctionne, enfin ne peut fonctionner que si comment ça s'appelle, que si l'entreprise a confiance en ses salariés. Et j'imagine que là, toutes les histoires qu'on entend sur des entreprises qui arrivaient à fonctionner en remote, mais qui demandent quand même aux gens de revenir, ben en fait, c'est que ils sont convaincus que les gars jouent à la PlayStation pendant au lieu de coder. Enfin, j'en sais rien, mais c'est et pour moi, c'est assez révélateur encore une fois, de cette culture, de à quel point les gens sont matures sur le sujet.
Pour le coup, c'est vrai que ça demande une notion de confiance. Après, moi, j'ai tendance à un peu partir. Moi, quand on ne me fait pas confiance, en fait, j'ai tendance à pas rester. Moi, je considère que de toute façon, une personne, si c'est pas parce qu'elle est dans les locaux qu'elle va plus travailler quand elle est chez elle. Moi, je peux être dans les locaux et faire tout à fait autre chose, sans problème, quoi. Si on veut vraiment pousser le vice un peu loin. Donc, si la personne n'est pas capable de me faire confiance, je vois pas comment je peux travailler avec elle. Donc, j'ai tendance là-dessus à être assez éliminatoire dès le début. Donc, là-dessus, j'ai eu un peu de la chance, entre guillemets, ça m'a pas trop impacté d'avoir des problématiques comme ça. Juste pour en revenir, ouais, à ton idée d'organisation, Christophe, elle est pas mal, mais c'est vrai que dès que tu commences à être un peu beaucoup dans une entreprise, je prends mon cas, j'ai des gens qui sont un peu dépendants de moi, vu que je suis architecte technique et je suis référent sur des dossiers. Et du coup, j'ai des gens qui ont en fait besoin des fois de mon aval ou tout simplement d'un avis dessus pour pouvoir un peu avancer, être sûr de ce qu'ils font et pas devoir recommencer un peu plus tard. Donc pour le coup, ça peut marcher de faire comme tu le fais, mais très rapidement on a un souci, c'est que il faut que tout le monde soit dispo uniquement l'après-midi. Et quand tu découpes en fait une journée comme ça et que tu perds une après-midi ou une matinée, c'est très vite encore plus compliqué de trouver des points où tout le monde peut venir en réunion sans que ça dérange, même si j'ai pas énormément de réunions. Des fois c'est un peu compliqué parce que je sais que certaines personnes sont sursollicitées. dans les équipes. Donc, c'est un peu, on va dire, j'ai un peu de mal à voir comment on scale, mais je retiens en tout cas l'idée. Pour le coup, j'ai tendance à plutôt me bloquer des passages d'une heure, comme j'ai dit, voire même dans certains cas, je ne l'ai pas fait ces derniers temps, mais j'étais dans des entreprises qui étaient atteintes de réunionite aiguë. Et pour le coup, ce que je faisais, c'est que je me posais des fois 3 heures de réunion dans une salle de réunion, comme je disais, mais j'y allais tout seul et je bossais tranquillement, quoi. Pour le coup.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On a aussi un chat, ce qui leur permet de poser des questions. Et je peux y répondre en fait l'après-midi. Donc, le truc, ça dépend combien on a de personnes qui sont dépendantes de nous, mais s'il y en a trop, au bout d'un moment, toi tu travailles plus, ou alors ton travail c'est de répondre aux questions des gens. En l'occurrence, mon travail c'est en partie de répondre à leurs questions, mais pas que. Donc, c'est vrai que c'est dur en fait de trouver le bon équilibre. Et cette équipe du matin après-midi, c'est le seul équilibre que j'ai trouvé, parce que finalement, le matin, en fait, j'ai que 2 heures, hein, parce qu'une fois que tu as passé le stand-up, il est vite 10 heures, et 10 heures à midi, midi et demi, ça fait pas grand-chose. Hein.
Ça dépend à quelle heure tu commences. Moi, je sais que quand j'ai tendance à faire des journées très tôt, je peux commencer à taffer à 7h30. Donc, pour moi, une matinée, c'est très, peut-être très étendu. D'ailleurs, moi, j'aime bien travailler en horaire décalé, parce que du coup, moi, je commençais très tôt. Je commence, par exemple, à 7h30. Je sais que globalement, avant 9h, il n'y a personne qui va m'embêter, quoi. Pendant 1h30, je suis bien tranquille pour me remettre au clair sur ce que je vais faire de la journée et commencer à vraiment taffer dessus. Donc, c'est aussi un avantage, je trouve, comme petite astuce, si vous pouvez, bien sûr, de travailler un peu en décalé. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup, perso, et ça permet de suivre votre cycle de vie, si j'ose dire. Moi, je sais que je suis plus efficace quand je fais ça, et malheureusement, c'est pas toujours possible pour tout le monde.
Justement, le travail en décalé, c'est le travail asynchrone.
Oui, mais je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont des... pour avoir fait de la prod pendant des années, des fois on a des contraintes tout simplement de présence ou en tout cas de disponibilité pour répondre aux alertes et des choses comme ça. Et c'est des contraintes qui malheureusement nous bloquent un peu pour le coup.
On va pouvoir parler d'organisation. Alors c'est vrai que moi aussi je travaille quand il ne travaille pas, donc ça m'a obligé en fait de travailler le soir et le week-end, et le matin des fois très tôt. Donc c'est un truc que je ne voulais pas forcément continuer sur le long terme, parce que c'est dur. Donc en gros, comment est-ce que vous organisez avec vos équipes? Est-ce que vous avez des rituels? Le matin, on a parlé du stand-up. Est-ce que vous avez d'autres rituels ou ce genre de choses qui vous permettent de structurer un peu la journée que vous avez en remote avec vos collègues?
En fait, pas tant que ça. On a cette espèce de daily à l'échelle de la squad. À l'échelle de l'équipe tech, en fait, finalement, c'est hyper, hyper léger. C'est toutes les semaines, on donne les objectifs du sprint, en gros, avec différents détails qui peuvent impacter les autres équipes. Mais sinon, on a très peu de choses. Par contre, toutes les réunions qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, des réunions d'archi, ou des réunions où on doit faire certains choix de techno ou je sais pas quoi. Tout ça, on le met à l'écrit, quoi qu'il arrive, et c'est un truc qui est partagé sur le chan des techs. Et donc ça permet à tout le monde d'avoir un peu une vision de ce qui est discuté, des arguments des uns et des autres, et de savoir qu'est-ce qui a été tranché ou qu'est-ce qui va être tranché, et donc potentiellement de pouvoir participer après coup à ce genre de trucs. Mais sinon, en termes de rituel, nous on est assez léger, mais j'ai l'impression que c'est good enough, quoi.
Pour le coup, nous, on n'a pas de... Alors, il y a deux niveaux. Au niveau de mon client actuellement, on n'a pas de rituel journalier. Vu qu'on travaille sur des... On est une organisation un peu différente. On est vraiment en transverse et sur toute une infrastructure. Pour le coup, on va plus faire des réunions en fonction des projets qui vont être ponctuels en fonction des besoins. Et on a une réunion par semaine qui est plus de la synchro, se mettre d'accord sur des organisations, présenter des idées ou des choses à mettre réellement en commun. Mais on a après, côté de ma boîte, une organisation informelle, comme je dis, qui est assez forte avec ce qu'on appelle les remote café. Du coup, c'est généralement vers 10h. Moi, je sais que j'en fais un avec 2-3 collègues que je retrouve régulièrement et d'autres qui viennent en fonction du temps. Donc, ça permet de discuter un peu aussi et de se tenir au courant. Et je sais aussi qu'on a tendance à des fois déborder en soirée et devant un bon jeu vidéo, se dire on se retrouve sur Discord et on joue. Et mine de rien, ça remplace un peu une soirée à aller boire un verre ou à discuter. Et c'est toujours agréable, même si bien sûr c'est pas obligatoire, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais plutôt que jouer seul, des fois faire une petite partie de quelque chose avec ses collègues, ça permet de discuter, d'échanger autour d'un truc qui sort un peu du contexte du taf. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie plutôt, quoi, pour le coup. On n'a pas vraiment de rituel forcé et formel. Ah si, pour la transparence et l'organisation, pour le coup, j'ai une chose à donner en expérience, c'est que dans mon entreprise, dès le premier jour du confinement, quand on a vu que notamment économiquement, il y avait des impacts, mon entreprise a pour le coup réagi d'une manière que j'ai plutôt appréciée, c'est qu'ils ont joué la carte de la full transparence et on a eu des réunions qui étaient du coup à distance, c'était toutes les semaines ou toutes les deux semaines, où on nous donnait un peu les dernières informations, donc que ce soit les communications que l'État fait aux entreprises, ou aussi des informations au niveau des missions, des finances, etc. En tout cas, c'était ultra transparent, et c'est vrai quand on parlait d'un contexte, parce que là on parle quand même du télétravail, surtout dans le contexte du Covid, c'était un contexte qui était un peu oppressant, comme on le disait, et cette transparence et cette organisation de dire on vous tient au courant, on régulièrement fait des points, etc., ça a été super, super appréciable, et ça a permis d'un peu souffler en mode on sait où on va, on sait ce qui se passe et tout. Donc ça, c'était vraiment au top, quoi.
Ouais, moi, au niveau des rituels, ça tournait beaucoup autour du daily. On essayait de garder, parce que, pareil, on avait encore des collègues, des gens qui aimaient bien parler, et moi aussi des fois, donc on essayait de garder le daily dans un horaire raisonnable. Et dès qu'il y avait un sujet à creuser, on prenait un créneau, soit dans la journée, soit le lendemain, pour détailler les sujets. Mais après, en dehors de ça, il n'y avait pas de rituel particulier. Ça tournait beaucoup autour du daily, et du daily découlait potentiellement des visios sur des sujets particuliers, ou même, qui n'étaient pas forcément des sujets techniques, ça pouvait être des sujets de... ça pouvait être... moi, typiquement, j'avais la chance d'avoir un manager qui était assez transparent, et lui-même, des fois, il disait, moi, aujourd'hui, je ne vous cache pas, j'en ai ouvertement marre d'être enfermé chez moi, je commence à devenir dingue, donc il y a un sujet sur lequel j'arrive pas à avancer parce que ça me motive pas dû au contexte, j'aimerais bien en discuter avec l'un de vous pour débloquer, et du coup grâce à ces prises d'initiative là, c'était pas trop mal parce que ça nous aidait à avoir quand même l'impression d'être épaulé et d'être ensemble, même si on était loin.
Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que les rituels dans ma boîte, ils n'ont pas changé entre la période avant Covid et donc après, pendant le Covid ou même post. Enfin, même on est encore dans le Covid, mais bon. Les rituels, et c'est ça qui me fait dire que la boîte était quand même plutôt bien armée en termes de culture sur le remote, c'est que vraiment, au quotidien, il n'y a rien qui a changé d'un point de vue opérationnel pour moi, quoi. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que qui a quand même son importance, c'est que le daily et le weekly que j'évoquais un peu plus tôt, en fait, ils ne sont pas à l'oral, ils sont dans des chans Slack. Et donc, tu le fais un peu pas quand tu veux, mais enfin si tu fais quand tu veux, c'est encore une fois ça renforce cette idée de tant que j'ai pas des trucs forts à faire avec d'autres gens, le côté asynchrone, autonome est vraiment primordial, quoi.
Pour le coup, moi, c'est vrai que j'ajoute un truc dont on n'a pas parlé dans l'organisation, mais qui, moi, en fait, il y a un moment où j'ai arrêté de le faire et j'ai vraiment regretté parce que ça m'a pesé, c'est de se tenir à des horaires. Ça peut paraître très con, mais moi, j'ai besoin de faire ma coupure et de se dire, ça, c'est dernière heure, dernier carat, j'arrête tout. Je l'ai fait au début, à un moment, j'ai commencé un peu à dériver et je m'en suis rendu compte que ça a été assez lourd de conséquences. Car après, j'ai du mal à faire ma coupure et du coup, je pensais toujours au taf et ça a été un peu compliqué, quoi, de pas ressasser en permanence ça. Donc, à mon sens, c'est intéressant de se définir un horaire de travail. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ultra strict, vous pouvez définir une plage et vous dire, vous commencez, on va dire, après 8 heures et vous finissez au grand maximum à 17-18 heures. Mais pour le coup, je pense que c'est important de se définir une horaire limite pour dire faire la coupure et vraiment fermer le PC et entre guillemets plus se connecter. Moi quand je suis dans mon domaine perso, il n'y a pas moyen de me joindre pour le pro, les gens sont au courant, ils n'essayent pas, hein, pour le coup, mais je pense que c'est important, moi, pour beaucoup en tout cas c'est important de faire cette coupure.
Je ne peux qu'être d'accord parce que moi je ne les fais pas forcément ces coupures et en tant qu'entrepreneur je travaille énormément, beaucoup trop d'après certains. Et du fait, en effet, je ne pense qu'au travail régulièrement. Et ça me pose des soucis. Donc, si vous pouvez vous tenir à une organisation personnelle de travail avec des horaires de bureau ou proches, faites-le parce que sinon, vous allez juste perdre la boule. C'est vraiment... Ça va vous empêcher de dormir ou ce genre de choses. Je ne sais pas si toi, Damir, ça t'empêche de dormir. Mais moi, ça m'empêche de dormir des fois.
Disons que tu ressasses toujours, donc au final tu penses qu'à ça, tu ne sors plus l'esprit, et à la fin tu es tellement à tête dans le guidon que c'est pas que tu pètes un plomb, mais tu as l'impression de ne plus avancer, tu commences à faire des choses qui sont pas forcément ultra réfléchies. Et tu disais définissez-vous des horaires de bureau, moi justement je dirais définissez-vous les horaires que vous voulez. Moi je sais que j'ai connu des gens qui en ont profité pour faire d'autres choses. Moi-même, j'ai profité d'être à la maison et pour pas m'encrouter entre guillemets, j'ai fait du sport. Mais du coup, je prenais en compte ces choses-là et finalement je faisais un peu les horaires que je voulais, parce qu'on parlait de travail asynchrone. Le but c'est aussi, comme je disais, de pouvoir s'adapter au rythme de vie. Donc n'hésitez pas si vous avez le choix à faire vraiment vous concevoir votre horaire quand c'est comme ça pour aménager votre vie. Par exemple, si vous avez un enfant qui est à l'école pas loin et qu'à midi vous voulez manger avec lui, vous avez le droit de prendre du coup 2 heures de pause entre midi pour lui faire à manger et manger avec lui, et peut-être commencer plus tôt ou finir plus tard. Donc il faut vraiment, je trouve, en profiter de ça et trouver un équilibre comme ça, mais c'est important pour le long terme, surtout quand il y a eu des conditions un peu oppressantes comme ça.
Ouais, finalement c'est nous qui avons le plus de rituels, donc on a plusieurs niveaux de rituels en fait. On va parler du rituel pour les salariés, on va dire, pour les salariés de l'entreprise. Donc tous les lundis matin, on a une réunion qui peut durer jusqu'à 1 heure de planification, discussion, accueil sur qu'est-ce qui va se passer cette semaine, où en gros on trace la lignée de la semaine pour tout le monde. Tous les jours, on a un stand-up de 10 minutes, pas plus. Ça veut dire que chaque personne doit dire en 2 minutes ce qu'elle a fait la veille, ce qu'elle compte faire dans la journée, et si elle a des problèmes, et surtout ne pas rentrer dans les détails. Si on veut que les personnes rentrent dans les détails, on aborde ça après le stand-up en petit groupe. Et les vendredis, toutes les 2 semaines, on a une revue de sprint où on présente en fait ce qu'on a fait pendant 2 semaines. Donc ça, c'est pour, on va dire, les profils salariés. Pour les profils entrepreneurs comme Thomas et moi, qui sommes à la tête finalement de l'Hydra, on a en plus, tous les 3 mois, un à deux jours en fait, où on se voit physiquement. En ce moment, c'est pas physique, mais... on va reprendre le physique quand on n'aura plus de problème de Covid, mais on se voit physiquement et on discute stratégie, on définit la stratégie pour les 3 mois à venir. Et donc ça, c'est notre casquette chef d'entreprise. Et du coup, tous les mois, Thomas et moi, on se voit pendant 2 heures en visio pour définir les travaux qu'il y aura à faire pendant le mois en suivant nos stratégies. Et ce qui nous évite de faire ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire de switcher entre notre casquette de salarié et notre casquette, donc salarié-faiseur, parce qu'on est aussi, des techs, et notre casquette de entrepreneur-patron. Parce qu'on a très vite fait, toutes les semaines, de faire des réunions et de changer nos objectifs, et ça, c'est pas une bonne chose quand on est entrepreneur. Et enfin, on a un troisième niveau parce qu'on est une entreprise d'entrepreneurs. Donc, je vous la fais courte, mais en gros, tous les entrepreneurs, ils se retrouvent une fois par an pour une semaine où ils peuvent se former entre eux. Donc, il y a plein d'entrepreneurs qui proposent des formations à d'autres entrepreneurs. Ça ne s'est pas fait cette année cause Covid, mais on reviendra l'année prochaine, où on se retrouve dans un village vacances avec un accès direct à la mer et tout. On est plus de 300 avec d'autres entreprises. Donc, c'est génial. On est tous en short ou autre. Et puis, on a aussi notre assemblée générale où on se retrouve dans la montagne, près d'un lac, et on fait notre assemblée générale comme ça pendant un jour et demi. Il y a une plénière aussi. Et tous les mois et demi, puisqu'on a une entreprise en plus décentralisée, on est national, on a ce qu'on appelle des groupes locaux. En gros, on a 6 groupes répartis dans la France. Donc moi, je fais partie du groupe lyonnais, malheureusement. Bon, bref. Hein. Donc je vais à Lyon une fois tous les mois et demi et on discute entre entrepreneurs des nouvelles de la coopérative, de comment ça se passe, ce genre de choses. Et puis on s'échange évidemment des bons plans entre entrepreneurs. Donc finalement, on a beaucoup de rituels, mais puisqu'on a en fait, on a plusieurs niveaux aussi. On n'est pas juste soit prestataire, soit... Enfin, bref, vous aurez compris que c'est un peu schizophrène comme chose, mais on s'y fait. Du coup, on va peut-être clôturer sur trouver ses marques avec les outils. Moi, je vais vous dire les outils qu'on utilise, et puis vous allez me dire si vous en avez d'autres. Nous, on utilise principalement GitLab pour le code et l'organisation des tâches à faire autour du code, et Trello pour le reste. Et finalement, on a un Mattermost, un chat Mattermost pour discuter de manière asynchrone en dehors des cartes. Parce que si on veut discuter d'un sujet particulier, on discute soit sur les issues GitLab, soit sur les cartes Trello. Et tout le reste va dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres outils que vous mettez en place chez vous ?
Pareil, Trello, Trello, Slack pour le chat, GitHub pour le code. Et après, comme je le disais un peu plus tôt, les réunions, les points de synchro, quoi que ce soit, tout doit être documenté. Et la documentation, elle est dispo sur un wiki, qui est, je crois que c'est Confluence, le moteur.
Pour le coup, nous, c'est aussi, ça va être du Slack, du GitLab et du Confluence pour tout ce qui est justement compte rendu, etc. Les points que je disais qui étaient ultra transparents et du coup agréables, ils étaient après retransférés sur du Confluence.
Ouais, un peu le même type d'outils. On utilisait pas mal Notion comme ancienne boîte, comme base de connaissances. Je trouvais ça pas mal pour organiser les contenus. C'était assez bien fait. Et il y a une expérience qui avait été faite aussi, qui a pas duré longtemps, mais moi j'avais apprécié. On avait utilisé Discord, mais pas pour les réunions, parce qu'on faisait toujours ça en visio, soit c'était du Google Meet ou du Zoom, mais Discord c'était plus pour les échanges informels et pour faire justement un peu des pauses café. Alors Discord maintenant ils font aussi de la visio, ceux qui n'ont pas testé. Ça marche pas trop mal, mais on faisait ça en mode audio et on disait y a un salon pause café et ceux qui veulent un peu à toute heure peuvent s'y connecter et on se retrouve un peu comme ça. Et moi j'aimais bien ce principe-là, ça a pas trop pris auprès de mes collègues, mais j'avais trouvé ça assez sympa.
Pour le coup, j'ai connu des gens qui étaient en full remote dans une équipe où j'étais précédemment. Ils utilisaient Discord, et oui, c'est une manière assez originale pour le coup. C'est que la plupart du temps, ils étaient en fait, sauf quand ils voulaient vraiment se concentrer sur un truc, mais ils étaient dans un chat entre guillemets public entre eux, et ça faisait un peu, il y avait un peu de discussion, vraiment comme un open space en fait, où des gens pouvaient dire, hey, au fait, qui a déjà vu ça ? Et du coup, c'était assez étrange, mais ils avaient toute la journée, en fait, le son derrière. Des fois, c'était très calme. Des fois, c'était quelqu'un qui discutait un peu dans l'open space. Mais ça leur permettait de retrouver un semblant, du coup, de vie classique là-dessus. Et ça se passait très bien, du coup.
Moi, j'ai oublié deux outils essentiels. Notre premier outil, c'est on a un Nextcloud pour collaborer, pour modifier les documents ensemble. Donc... Et puis, on a un outil de prise de notes qui est en Markdown, qui est Zettler, qui nous permet en fait de partager nos notes. Parce que vous parliez d'un wiki, mais nous, on n'a pas encore de wiki. On partage nos notes en Markdown et tout est synchronisé avec Nextcloud. Mais au niveau des outils, a priori, je pense qu'on a fait le tour. On mettra le lien de tous ces outils-là dans la description. Et justement, où est-ce qu'on fait du télétravail? Parce que quand on dit télétravail, tout le monde pense à on travaille chez soi, mais est-ce qu'on peut faire du télétravail autre part que chez soi, évidemment, dans son canapé? Vous, où est-ce que vous avez déjà fait du télétravail et c'est quoi l'endroit le plus insolite où vous avez télétravaillé?
Moi, je télétravaille donc de chez moi. J'ai une pièce, un bureau qui est dédié. J'ai un moment travaillé un petit peu dans un bureau partagé qui était pas très loin et en fait j'ai pas trop aimé. Il y avait une qualité de wifi pétée, au final je devais avoir un second écran, il était pas dispo, mon expérience a pas été terrible. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un peu de bruit, la salle résonnait un petit peu. Donc, au final, je vais continuer de télétravailler de chez moi.
Moi, il y a des lieux dans lesquels j'aime beaucoup télétravailler, mais du coup, avec le Covid et le confinement, j'ai été pas mal brimé ces derniers mois. J'ai travaillé dans les cafés qui ont une bonne connexion Wi-Fi, qui sont un peu prévus pour ça, avec des tables suffisamment confortables, espacées, etc. Et les bibliothèques, j'adore travailler dans les bibliothèques. Quand ça m'est pas arrivé beaucoup, mais les peu de fois où j'ai travaillé dans une bibliothèque, ma productivité a fait quoi 3. C'était assez impressionnant. J'avais lu un truc là-dessus qui racontait que en fait quand tu changes d'environnement, ton cerveau cherche de la dopamine et du coup ça booste ta productivité. Donc apparemment c'est un vrai truc scientifique. Et pour finir, vu qu'on parlait de lieux insolites, moi les lieux insolites, les plus intuitifs où j'ai télétravaillé, c'était pas du télétravail conventionnel, c'était à cause des astreintes. Et du coup, je me suis retrouvé à faire des astreintes dans les bars, dans les supermarchés. Il y a tout un tas de trucs. Quand le beeper sonne et que t'as le PC dans le sac à dos, tout de suite, ça donne des situations marrantes.
Du coup, pour moi, c'est en général du coup chez moi. Donc, j'ai aménagé un coin, mais on en parlera un peu plus tard. Et autrement, j'ai jamais vraiment de lieu originaux pour faire du remote. Moi, quand je fais du remote, généralement, c'est que j'ai pas. Soit je veux éviter de me déplacer, soit que je veux être à la maison pour une raison X ou Y. C'est très rare que je veuille être vraiment seul et isolé quelque part. Un peu loin entre guillemets de mon univers habituel. Après, j'ai la chance de pouvoir varier un peu vu que j'ai les bureaux de mon client et les bureaux de ma société qui sont pas du tout au même endroit dans Paris, qui sont des endroits plutôt sympas. Du coup, j'essaie des fois de varier un peu pour justement garder un peu de stimulation aussi et voir d'autres collègues. Ça fait toujours un peu plaisir de changer les têtes qu'on voit tous les jours et ça fait du bien d'avoir des nouvelles de tout le monde pour le coup. Mais j'ai pas fait d'endroit insolite, même si j'ai fait de l'astreinte. J'évitais de sortir quand j'étais d'astreinte parce qu'elle est assez intense pour le coup.
Je te comprends, Damir. Moi aussi, quand j'ai faisais de l'astreinte, je ne sortais pas. Moi, j'ai un bureau aussi chez moi, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est complètement aménagé, qui est fait pour ça. Il est fibré, en plus, c'est vachement bien. J'ai aussi un espace de coworking quand j'ai les alternants avec moi. Donc ça, j'aime bien y aller aussi, même si le Wi-Fi est pété. Ça, c'est sûr. Mais bon, on croise des gens, des collègues, et donc ça, c'est sympa. L'endroit, et alors j'ai pas encore fait les bibliothèques, mais on comptait le faire avec mon alternant, justement, aller travailler dans les bibliothèques, parce qu'en plus on a des bibliothèques à Saint-Etienne qui sont vachement bien et vachement calmes. Donc ça, c'est un truc que je vais faire. Et l'endroit où j'ai télétravaillé le plus insolite, en fait, j'aime beaucoup faire des résidences de travail, et du coup j'ai télétravaillé dans un gîte en pleine forêt près d'un lac, et c'était assez génial, et il y avait le wifi. Pas une très bonne connexion, mais ça suffisait pour ce que je voulais faire à cette époque-là. Et on va pouvoir passer au sujet du matos, et je vais redonner tout de suite la parole de Damir, qui va nous expliquer un petit peu du coup le coin qui s'est aménagé. En gros, l'idée, c'est si on travaille chez soi, quel type de matos on a besoin et quels investissements vous avez fait si vous êtes entrepreneur comme moi. Bon, les salariés, c'est votre boîte qui a dû faire les investissements, mais en gros, avec quoi on doit bien télétravailler, qu'est-ce que c'est le minimum avec lequel on peut télétravailler? Damir, je te laisse la parole, si tu voulais aborder ton petit coin aussi, tu voulais nous le décrire.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai aménagé du coup un coin chez moi pour être plus à l'aise là-dessus. Moi, j'ai aménagé, on a aménagé avec ma compagne qui a fait une grosse partie. Du coup, on s'est aménagé un long bureau où on peut travailler justement tous les deux et où ça soit confortable. Donc pour le coup, j'ai investi dans beaucoup de petites choses. Je donnerai le lien de l'article en commentaire, ce sera plus simple ceux qui veulent reprendre à tête reposée. Mais globalement, un bras sur genre un bureau sur mesure, parce que c'est plus agréable d'avoir un truc qui est conçu pour bien rentrer à l'endroit où on veut, qu'on ait assez de place, etc. Et qui soit assez grand. J'ai un écran qui est sur bras, sur un vérin en fait, donc ça me permet vraiment de le déplacer comme je veux, éviter d'avoir mal au dos. On a investi aussi dans des chaises du coup qui sont plus ergonomiques, parce qu'au final on est assis toute la journée dessus. J'ai un deuxième bras du coup pour porter mon PC en fait globalement à une certaine hauteur, mon PC portable, et éviter qu'il soit traîné fermé dans un coin. Là encore, ça évite de devoir se contorsionner, etc. Et j'ai investi dans un truc qui peut qu'il faut déjà savoir, ça existe tout simplement, mais qui est très pratique, c'est un switch USB. Donc en fait, moi globalement mon setup c'est que je me suis dit que le dual boot c'était pour les faibles et fallait faire du dual PC. Et pour le coup, j'ai mon PC d'entreprise ou mon PC Linux qui est sur mon socle, donc du coup socle d'ordinateur portable. Je peux travailler et j'appuie sur un bouton et je passe automatiquement sur mon PC perso. Donc du coup, ça me permet de faire un switch assez rapide et parfois ça peut être bien utile. Et c'est plus agréable que devoir débrancher son hub, rebrancher un hub, etc. Là, en un bouton, je fais tout automatiquement. Et je dois avouer que ça a été quelque chose qui est assez agréable, même si des fois déstabilisant au début de se dire ah ben attends, je suis pas sur le bon channel d'USB. Et pour le coup, voilà, l'ensemble de ces aménagements-là, je les ai faits à titre personnel parce que je les ai faits avant d'être dans ma boîte pour une grande partie. Pour le coup, c'est assez agréable et mine de rien, je joue aussi ou des choses que du coup, j'utilise pas mal mon PC en dehors des moments pro aussi. Et pour moi, en tout cas, c'est un investissement qui est très rentable. Et je pense que c'est bien d'avoir un coin déjà dédié au bureau et surtout qu'il soit confortable pour le dos et pour le reste. Et de pas être sur le canapé avec le PC sur la table basse et de se contorsionner. Parce qu'on le paye très vite, surtout dans les périodes de télétravail prolongé comme là, ça a été le cas.
J'ai pas fait d'investissement particulier, mais il y a un élément que je regrette pas du tout, même si ouais, j'en change quand même parce que je commence à vieillir, mais c'est un tabouret ergonomique. Alors du coup, on est un peu à l'opposé des chaises ergonomiques où c'est bien adapté pour le poser le dos et tout. Là, le principe, c'est que vous avez les genoux qui sont posés sur un support, une assise pour les genoux. Vous avez une assise pour les fesses et en fait vous êtes un peu vers l'avant, ce qui fait que vous êtes obligé de garder le dos droit. Vous pouvez pas vous courber, vous êtes obligé de faire un léger creux qui va vous garder le dos droit. Et du coup, à long terme, pour le dos, enfin ça dépend, tout le monde a un peu un cas particulier avec le dos, mais à long terme, ça peut être intéressant.
Ouais, je vais juste rebondir. En effet, moi, la première chose que j'ai achetée quand je suis devenu indépendant, c'est une chaise ergonomique. Je ne vais pas lésiner, j'ai pris une très très bonne chaise ergonomique à plus de 1000 euros. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans en salariat, j'avais mal au dos. Depuis que j'ai la chaise, je n'ai plus jamais mal au dos et pourtant je bosse beaucoup. Donc, si vous devez travailler chez vous, prenez une chaise ergonomique. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une super chaise ergonomique, mais. J'ai essayé le tabouret ergonomique, mais je suis moins fan. Et là, justement, je dois changer mon bureau et je vais passer sur un bureau assis debout. Parce que quand on travaille chez soi, on a tendance à pas forcément sortir. C'est pas bien, hein, il faut faire de l'exercice. Mais du coup, un bureau assis debout va me permettre de pouvoir travailler debout de temps en temps. Donc, je vais continuer à vous laisser la parole et je clôturerai sur le matos.
Ouais, moi, j'ai pas fait d'investissement particulier. J'ai juste un bureau relativement large où je peux mettre plein de choses. Et par contre, en fait, j'avais plus d'écran pendant le Covid, donc j'ai passé 3 mois sur mon 13 pouces là. J'avais les yeux éclatés. Et donc, premier truc que j'ai fait dès qu'on pouvait sortir, etc., c'était d'aller récupérer un vrai bon écran. Bien, bien large, un bon 27 pouces qui va bien. Et en fait, pour moi, c'est. Alors, avec la chaise, effectivement, qui permet d'avoir un confort important, c'est le fait d'avoir un second écran pour pas être courbé sur son bureau, à regarder son petit 13 pouces, etc. et avoir un confort de visu, ça, c'est quand même primordial, quoi.
Si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, moi je vais terminer quand même par un truc qui me paraît essentiel. Autant la webcam, elle peut être pourrie, autant le son et le micro, il ne faut pas, parce que si on fait beaucoup de visio, c'est quand même le son qui est le plus important. Donc pour moi, un bon casque micro, c'est essentiel quand on télétravaille. Et puis la webcam, même si on n'en a pas, c'est pas grave. C'est un peu gênant, hein, mais moi j'ai une webcam qui avait un problème d'autofocus pendant plus d'un an et demi. Ça n'a pas dérangé mes collègues. Par contre, le son, dès qu'on n'entend plus personne, c'est pas terrible. Mais sinon, pour bien télétravailler, pour moi, il faut quand même avoir un coin qui n'est pas dans sa chambre, parce que ça empêche de dormir, et qui soit plutôt calme. Et surtout, si on a des colocataires ou des personnes avec qui on vit, bien leur expliquer qu'on est au boulot et pas on est disponible. Ça, c'est important. C'est important, je pense que vous serez d'accord avec moi.
Le chat d'Amir, il s'en fiche.
Ouais, mon chat, pour le coup, n'est pas forcément très coopérant pour ça. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'habite avec ma compagne qui est dans le même domaine de métier, donc elle le comprend relativement bien. Mais on avait notre petite ambiance open space à deux, pour le coup, pendant le confinement.
Bon, mais on a dépassé l'heure. Alors, je vous propose de clôturer sur des avantages et des difficultés que vous voyez finalement au télétravail après plusieurs mois. Et on va faire ça en mode pop-up. On va parler d'abord des avantages. Est-ce que vous avez vu des avantages justement depuis que vous télétravaillez? Alors, pop-up, ça veut dire n'importe qui prend la parole et cite les avantages qu'il voit.
Les transports en moins.
Ouais, c'est ça, le transport, c'est surtout dès que tu as un peu de trajet, ça peut être vite une source, enfin quelque chose de très chronophage, c'est le premier avantage.
Je vois un super avantage, on n'attrape pas le Covid.
C'est un super avantage. Moi, je vois un autre super avantage, c'est quand même on est rapidement plus au calme en fait. On peut décider d'être au calme.
Moi, je vois. Et un autre avantage aussi, c'est qu'on peut vraiment adapter son poste de travail, etc., à sa manière de travailler, à ce qu'on fait.
Et un autre avantage quand on est prestataire ou freelance, quand on va travailler pour des clients, c'est que nos clients ne nous voient plus comme des salariés si on est en remote. Il y a vraiment le côté client-fournisseur. C'est pour ça d'ailleurs que j'explique à tous mes clients, je ne vais pas travailler chez vous, parce que si je vais travailler chez vous, vous allez avoir tendance à considérer que je suis votre salarié, alors que ce n'est pas le cas. Je suis votre fournisseur et du coup, je préfère avoir une relation client-fournisseur avec vous. Et je trouve que ça, c'est un vrai avantage quand on est à distance, même si on va le voir, hein, notre client, on va le voir de temps en temps pour faire des réunions et tout, mais pas aller travailler sur site. Moi, c'est quelque chose que en tout cas, je ne prône pas forcément.
Un autre avantage qui, moi, me tient pas mal à cœur, on baisse le bilan carbone global.
Si vous ne voyez pas d'autres avantages, on va pouvoir passer au point noir, finalement, du travail à distance. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, qui veut commencer?
Oh bah, les deux que je vois, c'est l'isolement qu'il peut y avoir parfois la charge mentale qu'on peut se mettre à se dire comme le travail n'est pas loin. Tu peux avoir, avec un manager, une politique managériale peut-être pas forcément hyper, hyper funky, tu peux avoir une charge mentale et te mettre une pression de fou et t'as fait tout le temps.
J'en vois un dans les entreprises pour lesquelles dans lesquelles la communication c'est pas forcément le gros point fort, qui ont des choses à travailler là-dessus. Si le télétravail est mis en place mais pas préparé, ça peut contribuer à séparer un peu les équipes dans la vision de la manière dont elles veulent accomplir leur travail et potentiellement se marcher sur les pieds ou aller dans des directions différentes sur certains sujets, chose qui serait peut-être pas arrivée, je dis bien peut-être, hein, c'est pas le télétravail qui est la cause de ça à la base, mais chose qui serait peut-être pas arrivée en présentiel parce que, comme on disait avec les fameuses pauses café, de temps en temps ça permet de se rendre compte quand on fait quelque chose dans le mauvais sens et de rectifier.
Moi, je vois un problème, en fait, c'est que le télétravail, les salariés ont souvent tendance à être libres, parfois, ils travaillent en dehors des horaires où ils sont censés travailler. Moi, j'ai mes alternants, je les ai chopés en train de travailler le week-end, et je leur ai dit non, vous ne travaillez pas le week-end, vous pouvez rattraper vos heures si vous voulez la semaine, mais pas le week-end, je ne veux pas vous voir travailler le week-end. parce que je les vois qui m'écrivent des messages dans le chat le week-end et je leur dis non, il n'y a que moi qui fais ça, pas vous. C'est pas possible.
D'où l'importance, encore une fois, de se définir des horaires limites, quoi, pour éviter de déborder, justement.
Exactement.
On en revient au problème d'équilibre vie privée, vie perso, qui n'est pas toujours facile à trouver, pour le coup, comme on n'a pas la coupure, mais Erwan en parlait déjà pas mal.
Je vois un autre problème, c'est la prise de poids. On ne l'a pas abordé, mais finalement, quand on télétravaille, si on n'a pas une discipline personnelle et si on ne fait pas forcément de sport, moi, je ne suis pas quelqu'un de très sportif et j'ai du coup tendance à, en plus... rester chez moi, je suis assez casanier comme garçon. Et du coup, si on ne se force pas à sortir ou à marcher ou à faire du sport, eh ben on va prendre du poids. C'est con à dire, mais c'est comme ça.
Bah justement, moi, c'est marrant parce qu'avec le télétravail, j'ai arrivé à me mettre une discipline et j'ai fait du sport exactement tous les jours. Alors qu'avant, je n'arrivais pas à me mettre la discipline de le faire tous les jours. Et là, j'ai réussi à le faire vraiment tous les jours, à m'y tenir. Pour le coup, ça m'a aidé. Donc, j'ai eu un peu de la chance. Et je dirais aussi autre chose, c'est tout ce qui est informel, en fait. On en parle depuis le début à travers Pause Café et tout ça, mais toutes les choses un peu humaines, tu vois. Quand à midi, il y a ton collègue, il fait « Moi, j'ai trouvé un petit resto, il est caché derrière le bâtiment là, mais il est excellent. » Bah, c'est des petites choses, ça peut paraître con, mais c'est toujours des échanges et des découvertes qui sont sympas. Et ça aide aussi à être stimulé mentalement sur plein de choses, en fait.
Je suis un peu comme Damir, j'ai eu la chance aussi que ma compagne était très motivée pour se remettre au sport pendant le confinement, mais du coup on s'est imposé une discipline et moi j'ai maigri pendant le confinement, et depuis qu'on est déconfiné, je regrossis, donc tu vois, c'est quand même fou, mais en dehors de ça, après ouais, complètement d'accord avec Damir, les échanges et la vie d'entreprise au sens humain, ça, c'est encore un truc qu'on n'a pas su résoudre, je trouve, avec les outils et les méthodes qu'on a pour télétravailler.
Comme quoi, il y a encore du travail. Du coup, si on veut aller plus loin, parce que je vois qu'il est, ça fait quand même plus d'une heure qu'on discute, et on n'a pas encore fait le tour, finalement. Donc, on va laisser quelques liens à nos auditrices et auditeurs. Il y a notamment un podcast, en fait, sur Slate, sur... je ne sais pas lequel d'entre vous nous a mis le lien d'ailleurs, sur la reconversion et le télétravail, comment est-ce qu'on peut appréhender ça. Et puis, moi, je vous laisse deux liens, notamment...
c'était moi, mais c'était une liste de podcasts, donc je ne vais pas pouvoir vous faire un résumé là comme ça. Mais en tout cas, il y a des choses à écouter là-dedans qui avaient l'air pas mal.
Bon, je mettrai les liens en description. Il y a aussi une entreprise dont je parle souvent et que j'aime beaucoup, qui est très dans le remote, parce qu'ils sont remote first, ils sont partout répartis dans le monde, c'est GitLab. Et GitLab, ils ont donc je vous laisse deux liens. Le premier, c'est un e-book qu'ils ont créé, qui fait une trentaine de pages, donc pour commencer, c'est vraiment bien. Et surtout, ils ont un guide complet qui est en licence libre sur le télétravail et la culture du télétravail. Parce qu'eux, ils développent vraiment une culture du remote. Donc, de toute façon, toute leur entreprise, en fait, toute leur documentation de leur entreprise est sur leur site en licence libre. Mais là, pour le coup, je vous ai isolé la licence du télétravail, la documentation du télétravail. Et enfin, je voulais vous lire le manifeste du télétravail de GitLab. Mais comme ce podcast est quand même extrêmement long, je vous mettrai la traduction que j'ai faite sur l'article qui sera lié au podcast, puisque chaque podcast a un article de blog sur le blog de l'Hydra.
J'ajouterai un lien, s'il faut que je le retrouve, au FOSDEM cette année. Il y avait une conférence qui était assez intéressante, justement sur comment, en fait, s'inspirer de notamment l'open source et de manière travailler de manière distribuée et asynchrone pour aider au télétravail et aux choses comme ça. Donc j'essaierai de vous trouver le lien, c'était un tool qui était assez intéressant du coup au FOSDEM 2020.
Il y a ça, il y a aussi dans les boîtes auxquelles je pense qui communiquent pas mal là-dessus, il y a Elastic qui est aussi en full remote, et donc c'est Basecamp aussi qui est en full remote. Et je vais faire un peu d'autopromo pour ma femme, donc je vais raconter ma vie. Ma femme a repris ses études cette année, elle avait un mémoire à réaliser, et son mémoire c'était sur le travail en remote en gros. Et un des assets qui est issu de son mémoire, c'est un espèce de questionnaire qui permet de savoir, c'est très prétentieux, mais en tout cas d'avoir une idée de la maturité de l'entreprise dans laquelle on est pour le remote. Et c'est Et ça permet aussi de se, peut-être des fois, de se poser certaines questions sur est-ce que la boîte, elle passe pas à côté de choses évidentes pour améliorer les conditions du remote ou quoi. Et si ça intéresse, je peux partager le lien que tu pourras mettre dans la description de ce podcast.
Mais bien sûr que ça nous intéresse, Erwan. On veut avoir plein de liens, puisqu'on adore les liens chez Radio DevOps et on en met partout, des liens qui sont très très longs. Eh bien, cette émission a été très longue, encore une fois. Je vous remercie à tous les trois d'être restés jusqu'à si tard, parce qu'il est quand même pas mal tard là. Et puis, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission d'actu et une nouvelle émission de Radio DevOps dont on n'a pas encore décidé de la thématique. Je vous laisse le mot de la fin et on va commencer par Benoît.
Eh bien, pour faire des pauses et bouger en même temps au télétravail, faites des squats.
Damir, je t'en prie.
Essayez d'adapter la flexibilité du télétravail à vos contraintes et à votre méthode de vie, sans oublier quand même de définir un cadre à tout ça, c'est important.
Erwan.
Casier.
Bon, moi, je vais finir par vous dire que comme nos émissions font à peu près une heure, prenez un épisode de podcast dans vos oreilles, sortez et allez vous promener pendant une heure avant de commencer à télétravailler. Et ce sera mon mot de la fin et je vous dis à tous à très bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.